les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Vous pensiez peut-être vous être levé trop tôt ce matin. Eh bien, détrompez-vous, les jardinières sont là, fidèles au poste, comme tous les samedis, pour se consacrer corps et âme à vos petites fleurs et à vos plantes intérieures. Évidemment, je ne suis pas toute seule à avoir affronté le frais matinal. On se réchauffe aussi avec Sophie. Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Et oui, c'est un vrai plaisir d'être les premiers debout pour accueillir tous nos petits jardiniers en herbe. Et malgré la Saint-Martin qui a débuté dans son Ajoie natale, notre professionnel Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, est avec nous jusqu'à 8h. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Et nous sommes le 10 novembre 2018, ça file, hein, le temps d'automne bat son plein. Les forêts sont passées du vert au jaune-orange, on fait des soupes de potiron et nos jardins se préparent à entrer en hibernation. Enfin, pas encore tout de suite. Quelles sont les fleurs qui résistent bien à cette saison? Est-ce que c'est déjà le bon moment pour rentrer et bâcher certaines plantes? On fait le plein de bons conseils et on répond évidemment à toutes vos questions en compagnie de Fabrice Rondet.
Des questions que vous pouvez lui poser dès maintenant et en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Fabrice vous fera donc un plaisir de vous répondre sur mesure. Vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez le tout donc au 939. Il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et si vous choisissez l'option SMS ou le formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Eh bien, je crois que tout est dit. Les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et la première question nous vient de Romain Desbois. Non, ce n'est pas un gag. Il a planté des pieds de lavande pour attirer les papillons ce printemps ou cet été. Mais par contre, ses pieds de lavande se sont trop développés. Il aimerait les transplanter. Est-ce que c'est possible, Fabrice?
Alors, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc, ce qu'il faut juste veiller, c'est prendre un maximum de la motte avec des petites radicelles qu'il y a au pied de cette lavande et avec un petit peu de terre autour. On ne la réduira pas trop, on ne coupera pas ses radicelles. On préparera un trou à l'endroit où c'est qu'on veut la placer, avec de la terre fine. On met cette plante en place, on arrose un petit peu pour que la nouvelle terre colle bien tout autour de cette motte qu'on aura mis en place. Et après, on laisse gentiment les choses se mettre en place pour redémarrer pour la saison prochaine.
Et à quelle période il faut faire cette opération?
Maintenant, on peut attaquer ça après l'avoir taillé pour profiter du repos végétatif des plantes.
Jean-Daniel a opté pour l'option SMS. Il nous en a envoyé un la semaine dernière et il a plusieurs questions. La première, cette année, il nous dit que cette année, il a récupéré les graines de tomates et celles de concombres. Il aimerait faire ses semis lui-même pour l'année prochaine et il aimerait savoir à quel moment il doit commencer à mettre ses semis dans ses bacs.
Alors, on a des petits guides qui existent, qu'on peut trouver pour savoir les périodes de semis par rapport à certains légumes. Ils ne seront pas tous à semer en même temps. Et en général, pour ce qui est tomates, des choses comme ça, on parle de février, mars. Et puis, pour les cucurbitacées, c'est à peu près pareil aussi, parce que ça démarre très, très rapidement. Donc après, ce qu'il faut faire attention, c'est les endroits où c'est qu'on les place, la lumière, la température, l'hygrométrie. Et pour pas qu'il file, pour pas qu'il soit trop fragile, autrement on devra recommencer. Donc peut-être se renseigner, aller se documenter pour pas faire d'erreur à ce niveau-là, parce qu'autrement on devra recommencer une à deux fois avant d'avoir des beaux plants bien forts pour mettre au jardin.
Et puis sa deuxième question, puisqu'il nous a dit qu'il y en avait plusieurs, il demande si chaque graine va donner un plant.
Alors, si c'est des graines qui sont de cette année, qui va semer sur le début de l'année prochaine, normalement, on pourrait imaginer qu'on ait un plant par graine, oui.
On a reçu également un formulaire la semaine dernière de Jean-Pierre de Marin. Voici sa question. Il a semé des roses trémières et il se demande s'il doit couper les feuilles à l'automne.
Alors effectivement, on va couper tout ce qui est feuilles, tout ce qui est tiges pour préparer la souche pour l'hivernage. Et ensuite, on peut mettre ça soit dans un compost, soit le préparer pour les déchets verts pour le ramassage qui se fait dans les communes. Et la plante, après, elle va passer son hiver pour redémarrer au printemps.
Et puis, concernant les roses, donc les roses trémières, c'est quoi la différence avec des rosiers, on va dire, standards?
C'est une plante vivace, alors que le rosier standard, c'est plutôt un ligneux quand même. comme on le connaît sous forme arbustive, grimpant, couvre-sol, les grandes fleurs pour les bouquets ou alors les polyanthas. Donc c'est un petit peu différent.
Une question cette fois-ci sur un Beaucarnéa. Michel nous a envoyé des photos donc, de son Beaucarnéa que nous vous avons montré, Fabrice. Ses feuilles sont sèches et il y a comme une espèce de moisissure blanche à l'embranchement des feuilles et dans les espaces couverts. Petite précision, il n'a jamais vu d'insectes sur cette plante et les feuilles ne tombent pas, mais elles sont ramollies, sèches et brunes. Est-ce qu'il demande si c'est de la cochenille ou qu'est-ce qu'il peut faire ?
Alors c'est difficile à dire sur cette photo si cette moisissure blanche est vraiment une moisissure ou bien une cochenille farineuse ou quelque chose comme ça. Mais ce qui m'a le plus interpellé sur la photo, c'est qu'on a cette plante qui est dans une soucoupe qui m'a l'air remplie d'eau. On le voit sur une petite boulette de terre où c'est qu'autour de cette boulette de terre, on voit comme un petit reflet. Donc on suppose que cette soucoupe est remplie d'eau. Sur la deuxième photo, on voit aussi que le terreau est plutôt luisant. Et puis moi, je me demande si plutôt cette personne n'a pas fait un excès d'arrosage à répétition pendant une, deux semaines ou peut-être même un petit peu plus longtemps. Et cet excès d'arrosage a pour effet d'asphyxier la plante, ce qui fait que les feuilles vont se ramollir dans un premier temps, sécher, et après on a cet effet un peu pleureur comme on le voit sur la photo. Et après, ça vire pour les parties vertes qui restent sur la base donc du démarrage des feuilles au pourrissement. Donc je pense plutôt qu'après c'est le développement des moisissures qu'apparaissent des choses comme ça. Moi j'ai plutôt l'impression que cette personne a fait un excès d'arrosage à ce niveau-là. Il faudrait faire attention quand on met une plantation en place dans un petit pot, un rempotage, des choses comme ça. Il faudrait toujours avoir un bon drainage, que l'eau puisse s'échapper, un pot percé, et puis arroser, laisser essuyer en deux arrosages pour que la plante se développe bien. Jamais avoir une plante les pieds dans l'eau.
Là, concernant cette plante, donc les photos qu'on a reçues, est-ce que vous pensez que c'est possible de la récupérer ? En taillant peut-être, en enlevant.
D'après la photo, j'y crois pas trop parce que elle m'a l'air. On voit le cœur vraiment, le démarrage des feuilles qui est vraiment complètement touché. On voit pas de jeunes feuilles, on voit pas de feuilles encore dressées, des anciennes feuilles. Ce serait difficile, je pense. Mais on peut essayer de laisser essuyer ce terreau pour imaginer de voir redémarrer des jeunes pousses au point de démarrage, mais je doute parce que ça m'a l'air vraiment très très avancé le stade.
Ouais. Et puis même les feuilles qui sont encore vertes vont gentiment
sécher. Ouais, exactement.
Merci beaucoup Fabrice Rondé. Je rappelle que vous êtes en notre compagnie jusqu'à 8h. Vous qui nous écoutez, vous avez donc encore 45 bonnes minutes pour poser vos questions à Fabrice Rondé, paysagiste à Port-en-Truy. Et Sophie, évidemment, il y a plusieurs moyens pour eux de poser leurs questions.
Oui, alors vous pouvez le faire par écrit, par SMS, en envoyant jardin, donc suivi d'un espace et de votre question au 939. Vous pouvez également trouver des formulaires sur notre site internet. Et puis sinon, le moyen le plus direct reste quand même le téléphone. Vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour poser directement votre question au jardinier qui est avec nous ce matin, donc Fabrice Rondé. Et c'est au prix de 36 centimes la minute.
7h, 8h, les jardinières.
Une autre question qui nous est parvenue par Fabienne. Elle a un calanchoé qui pousse vraiment trop en hauteur. Et elle demande si elle doit le couper. Si oui, comment est-ce qu'elle doit le couper ? Et elle précise qu'il se trouve dans un pot en terre, dans une véranda à l'ombre.
Alors, le calanchoé, c'est une plante en général qui est assez ramassée, qui fait des entre-nœuds assez courts, qui pousse pas spécialement beaucoup en hauteur. Donc, il cherche peut-être un petit peu la lumière. Donc, mais s'il est dans une véranda, normalement, il devrait avoir toute la lumière qu'il lui faut. Donc, effectivement, on pourrait le couper un petit peu le sommet de la plante, ce qu'on appelle un pincement ou un petit étêtage pour le freiner dans sa croissance, pour qu'il se densifie un petit peu plus. Mais c'est juste sur les derniers centimètres. Et puis, essayer de le placer dans un endroit un petit peu plus éclairé, s'il était peut-être dans un endroit un petit peu ombragé, pour essayer qu'il cherche justement un maximum de lumière pour que ça lui profite un peu plus, et puis pas qu'il pousse comme un fou pour aller rechercher ça. Après, il y a au niveau peut-être des engrais, pas trop le pousser à l'engrais. Normalement, cette saison ici, on ne fait plus d'apport d'engrais, ou alors au maximum une fois par mois. Et puis, c'est tout ce qu'il y aurait à faire, je pense.
On a reçu une question de Céline concernant un petit oranger d'appartement qui semble bien tenir le coup. Ça fait plusieurs années qu'elle le sort au printemps, qu'elle le rentre dès qu'il fait plus frais. Elle l'a donc déjà rentré cette année, mais par contre, elle a une invasion de mouches dans la maison. Et elle se demande justement, est-ce que ça peut venir, ces mouches de ce petit oranger d'appartement? Est-ce qu'elle doit changer la terre, doucher la plante? Parce qu'apparemment, ces mouches viennent par période. Tout d'un coup, elle en a plein et après, il n'y a plus rien. Donc voilà. Fabrice.
Oui, alors effectivement, ces moucherons pourraient venir tout simplement de plusieurs endroits. Mais si ça provient de cette plante, si ça tourne autour de la plante, effectivement, ça pourrait être une ponte qui a lieu tout simplement dans le terreau. Et puis, justement, comme elle le dit, il y a une incubation, après il y a un envol, après il pourrait y avoir une incubation, de nouveau un envol. Donc après, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est peut-être changer le terreau, gratter un petit peu tout le terreau qu'il y a sur le dessus, sur le pourtour, pour remettre un nouveau terreau, ou faire un léger traitement, voire dans un centre de vente à proximité, pour prendre... peut-être ce qu'il faut pour remédier à ça si vraiment l'attaque était trop importante. Mais je pense que d'après ce qu'elle décrit, ces petits moucherons ne sont pas néfastes pour la plante elle-même. C'est plutôt ennuyant.
Mais quand on a des petites mouches qui sortent justement d'une plante comme ça, est-ce que c'est possible de le traiter avant, c'est-à-dire de voir finalement les petits œufs de mouches et puis de pouvoir peut-être les enlever, les laver?
C'est difficile de les voir avant parce qu'ils sont quand même dans la terre, donc on ne fait pas forcément attention. Et puis en général, on constate ça que quand ils ont commencé de prendre leur envol. Donc c'est difficile d'anticiper un petit peu ça, puis c'est pas quelque chose qui se met en place d'une façon régulière non plus.
Est-ce qu'il y a des plantes qui sont plus propices à donner des mouches ?
Ben, je dirais que non, parce que c'est en général le problème vient quand même des conditions température, humidité, terreau. Donc c'est plutôt ça qui est favorable au bon développement ou pas des insectes ou ravageurs.
En tout cas, ce qui est bien avec cette question, c'est qu'on voit que les petits orangers d'appartement, ça peut tenir plusieurs années. Céline nous dit qu'elle l'a depuis plusieurs.
Ça fonctionne très bien. Ouais. Oui,
on peut. J'ai jamais réussi à.
Ça fonctionne bien. Après, on a la surprise d'avoir des floraisons qui vont arriver sur le début de l'année, après les fruits qui veulent venir. On a des jolis parfums aussi avec ces plantes-là. Donc c'est une plante qui est très intéressante, oui.
Merci beaucoup Fabrice Rondet d'être avec nous ce matin. Vous êtes encore en notre compagnie pendant 35 minutes. Il y a plusieurs moyens pour vous qui nous écoutez de poser vos questions ce matin à Fabrice et à Sophie.
Oui, alors il y a le standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Donc si vous appelez, vous pouvez directement discuter avec Fabrice qui est là pour répondre à vos questions ce matin. Vous pouvez aussi écrire un SMS au 939, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Ou encore, vous pouvez trouver les formulaires sur nos sites internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
7h, 8h. Les jardinières. Les jardinières.
Et on est de retour dans les jardinières. Jusqu'à 8h, on répond à toutes vos questions dédiées à vos espaces verts et à vos jolies plantes. Enfin, je dis on, c'est surtout Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, qui y répond. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Et vous le savez, les jardinières, c'est votre émission. Qu'importe votre question, vous pouvez la poser au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Fabrice Rondet. On lit également vos SMS. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission questions jardinières. Et dans les deux cas où vous choisissez l'option par écrit, n'hésitez pas à bien détailler votre problème.
Et vous avez eu justement un appel pendant notre petite pause musicale, Sophie.
Oui, exactement. On a reçu un appel de Madeleine de Delémont qui a planté des artichauts dans son jardin en printemps. Ça n'avait rien donné. Elle se demande si c'était parce que c'était trop sec ou elle ne sait pas. Maintenant, ces plantes sont très belles. Il y a des belles feuilles, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout. Et elle demande s'il faut les tailler, si oui, comment, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors moi je dirais de laisser faire un petit peu les plantes. Maintenant s'il n'y a pas de fleurs, je crois que c'est tout à fait normal, parce que si je me rappelle bien, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de planter beaucoup par chez nous. C'est plutôt une plante qui est réservée aux aux grandes cultures, on va dire, où c'est qu'on a de la place, et puis plutôt des maraîchers. Mais c'est quelque chose qui doit, c'est une culture qui doit se faire sur 2 ans. Donc je pense qu'effectivement, c'est normal, si je me rappelle bien. Je ne suis pas très sûr, il faudrait vérifier ce que je dis là. Et puis la floraison serait plutôt pour l'année prochaine. Donc qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle laisse passer cette plante son hiver, et au printemps prochain, la plante devrait redémarrer pour faire son développement normal.
On a reçu une question par SMS de la part de Monique de Marin, juste avant la pause musicale également. Elle nous demande quel est le meilleur moment pour planter des arbustes comme les noisetiers, églantiers, potentilles, mais le tout à 1500 mètres en Valais. Est-ce que c'est mieux de le faire tout de suite, plutôt au printemps ou avant mai à cause de la neige? Enfin voilà, elle se pose un peu des questions sur la période de plantation de ces arbustes, Fabrice.
Alors, comme c'est tout déligneux là, ce qu'elle parle, c'est toutes les plantes qu'elle souhaite planter sont de cette catégorie-là, elle peut pratiquer maintenant. Donc, ce qu'il faut juste faire attention, c'est de faire un trou de plantation à peu près une fois et demie à deux fois plus grand que le volume de la motte ou du pot qu'elle a. Et puis s'assurer que dans ce trou qu'elle aura creusé, on ait de la bonne terre à disposition, parce qu'on pourrait tomber sur quelque chose de plutôt rocailleux qui serait difficile pour la plante au démarrage de la saison prochaine. Donc si c'était le cas, peut-être qu'elle rapporte de la terre, qu'elle évacue ce mauvais matériel, après qu'elle arrose abondamment pour que de nouveau la terre aille se coller à cette motte qu'elle vient de mettre en place. Après, on va laisser passer l'hiver et la plante va se réveiller avec le réchauffement de la terre et de la température de l'air au printemps prochain, et ça va partir très rapidement.
Le fait qu'elle soit à une altitude de 1500 mètres, ça change quand même un petit peu la donne par rapport à
ça pourrait changer la donne par rapport au choix de certains végétaux, de certaines variétés, mais si elle reste dans des variétés indigènes comme le noisetier, comme l'églantier, ça, il n'y a pas de souci. Après, les potentilles, c'est une plante assez rustique aussi qui se plaît pas mal à beaucoup d'endroits différents. C'est pas une plante qui est exigeante non plus. Donc si c'est cette catégorie-là de plantes, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est un panel de plantes plus important qu'elle souhaite mettre en place. C'est peut-être faire une démarche avant auprès d'un professionnel pour savoir justement si tout est bien indiqué pour ces altitudes-là.
Et après l'appel et le SMS, on a aussi reçu un formulaire qui nous vient de Christine Descoffranes. Et elle nous écrit « J'ai des framboisiers dans mon jardin, mais je ne sais pas si je dois les couper en fin de saison. J'ai eu plusieurs avis différents. Une personne m'a dit de tout couper, une autre m'a dit de ne rien couper. Que dois-je faire? De plus, si je les coupe, dois-je le faire en cette saison ou bien au printemps ?»
Alors, c'est une question qui est compliquée parce que les framboisiers, on a deux sortes de tailles qu'on va pratiquer sur deux types de framboisiers bien différents. Donc, si on a une framboise type d'été, comme les variétés Autumn Bliss, là, on peut les laisser longs ou les rabattre juste de moitié pour le passage de l'hiver pour qu'on n'ait pas de casse suite à une neige lourde ou des choses comme ça. Et par contre, la vraie taille, elle va s'effectuer juste avant le démarrage, donc c'est-à-dire aux environ de mi-avril, et là on va couper tout à 4-5 cm du sol. Par contre, si on a des variétés comme les variétés qu'on a l'habitude de planter il y a quelques années, là il y en a quand même pas mal de variétés, il faudrait se renseigner. Et puis là on va par contre supprimer tout ce qui a produit cette année, et on va conserver toutes les jeunes pousses de l'année qui vont produire l'année prochaine. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est savoir ce qu'elle a planté. Donc, aller voir par rapport à son ticket de vente ou la facture qu'elle a reçue de son fournisseur. Et puis, suite à ça, on pourra lui dire exactement ce qu'elle doit pratiquer comme taille. Donc, pas partir simplement sur ce qu'on va lui dire comme ça. Il faut vraiment qu'elle sache par rapport à la variété. Et une fois qu'elle sait sa variété, elle ne va pas faire d'erreur.
Donc il y a quand même pas mal de variétés de framboises.
On a deux groupes essentiellement. On a pas mal de variétés, mais on a deux groupes qui vont influencer la taille. Ouais. Donc ça, c'est très important parce que dans un premier groupe, ces variétés d'automne qu'on va tailler à 5 cm du sol, si on les laissait longues, on aurait une production. Mais d'année en année, on va affaiblir la plante et puis la production va devenir de moins en moins importante. Tandis que si on fait une taille sévère comme ça, on a une végétation qui va monter à 1m20, 1m50 et on a une production qui est très forte, très importante. Et dans l'autre cas, c'est pareil. Une mauvaise taille va influencer un dépérissement des plantes et on a quelque chose aussi au niveau de la production dans l'été qui va devenir de moins en moins important.
Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, comme variété, si on veut avoir des framboisiers?
Alors, moi, j'ai un gros faible pour la variété Autumn Bliss, qui est une variété qui est très intéressante parce que je trouve qu'elle a un goût qui est très intéressant, aussi bien en produit frais qu'en produit une fois qu'on le sort du congélateur. Après, quand on la sort justement du congélateur, c'est une framboise qui reste bien entière. On peut faire des jolis desserts. Elle se tient bien, elle garde tout son parfum. Je la trouve vraiment très intéressante. Ensuite, elle a une production qui arrive juste après le verre de la framboise. Donc ça, on apprécie pas mal. Et puis après, elle a une production qui est très généreuse. Et on a une taille qui est très simplifiée. Donc je trouve qu'elle a pas mal d'avantages, cette variété-là.
Ah, cette petite histoire de framboise à 7h43, ça donne faim. On va passer au laurier. Hein. Allez, c'est un petit peu moins appétissant, mais quand même. On va prendre la prochaine question, Fabrice, d'un auditeur qui nous écrit qu'il va élaguer un laurier très encombrant dans son jardin. Et il voudrait savoir s'il peut composter les feuilles et les branches après les avoir broyées. Et puis sinon, qu'est-ce que vous proposez comme alternative pour ne pas les mettre à la déchetterie ?
Alors effectivement, le laurier, s'il a un broyeur, il passe ça dans ce broyeur déchiqueteur de préférence, il va faire un joli paillage, il met ça dans son compost et ça va lui donner un résultat des plus intéressants, il n'y a pas de problème.
On a reçu un SMS de Annie qui nous écrit qu'elle a deux avocatiers qui font un mètre de haut et ils ont le bout des feuilles qui brunit. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'ils donnent des fruits. Est-ce qu'elle peut les greffer ?
Alors, pour les feuilles qui brunissent, ça c'est un problème un petit peu qui est lié à la saison parce que quand on rentre dans la saison automnale hivernale, ce qu'on fait c'est qu'on referme un peu plus les fenêtres, on augmente un petit peu la température dans nos appartements et puis on a un air qui s'assèche un petit peu. Donc on peut tout simplement pulvériser un petit peu d'eau, vaporiser un petit peu d'eau une fois par jour. Et puis, on a un air ambiant comme ça qui se trouve un petit peu plus, un peu plus humide. Donc, ça va aider contre ce dessèchement des feuilles. Maintenant, pour les avocats, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué au niveau de l'obtention de fruits. Personnellement, j'ai pas de recul là-bas dessus, du greffage là-bas dessus, j'en ai pas vu non plus. Je pense qu'il faudrait éventuellement se renseigner un petit peu plus, voir chez un producteur de plantes en pot, de choses comme ça, si on peut avoir quelque chose. Mais moi, je ne saurais pas donner la réponse comme ça en tout cas.
Donc voilà, Annie, hein, peut-être informez-vous plus personnellement avec un professionnel. Dans tous les cas, vous pouvez nous donner des nouvelles de vos plantes. Et si vous avez envie de faire comme Annie, vous qui nous écoutez, c'est-à-dire de poser une question à Fabrice Rondet, qui est avec nous pendant encore un petit quart d'heure, eh bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez le faire au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez discuter directement avec notre professionnel. Vous pouvez également, comme Annie, justement, envoyer un SMS en envoyant le mot jardin, un espace, votre question détaillée, le tout au 939. Et puis finalement, il y a toujours notre formulaire présent sur nos sites internet. Petite pause et on revient.
Les jardinières.
Et Sophie, nous avons Marie-Daniel en ligne. On va parler chou-rave.
Oui, Marie-Daniel, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si on a des chou-raves du jardin. On les a rentrés l'autre jour parce qu'on les rentre toujours dans des caisses avec du terreau et de la terre pour les garder l'hiver comme ça. Et puis les feuilles, elles avaient des poux. Puis nous, on traite toujours au purin d'ortie ou aux feuilles de rhubarbe.
Et puis donc maintenant, enfin bonjour tout d'abord. Et puis
bonjour, maintenant, oui.
Et puis maintenant, vous avez donc des poux encore où c'est que vous avez encavé, où c'est que vous avez encavé ces légumes?
Oui, il y a encore quelques poux sur les feuilles, oui.
Alors, est-ce que vous avez la possibilité peut-être de nettoyer ces parties qui sont touchées par les poux en retirant les feuilles qui sont atteintes?
Alors, je pourrais faire ça, oui.
Ouais.
Alors, mais j'ai dit, je vais demander avant de faire comment les entrer en cas, dans un froid, où il fait froid, Eh bien, je me dis, je voudrais être sûr. Bon, je les ai séparés avec les autres légumes parce que je ne dis pas que ça se propage.
Oui, vous avez raison. Donc moi, ce que je ferais tout simplement, c'est que du fait que vous avez déjà l'intention de travailler d'une façon des plus propres, ce serait tout simplement de nettoyer votre légume de tout ce qui pourrait être touché. De veiller aussi que si vous avez rapporté un petit peu de la terre pour l'encavage, de vous assurer que cette terre aussi, elle soit des plus propres. Et puis après, ben, vous pouvez mettre ça en encavage pour jusqu'à la consommation, tout simplement.
Alors d'accord, oui, d'accord. Alors ok. Alors merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée, au revoir, merci.
Merci, au revoir.
Merci Marie-Danielle, au revoir.
Et on vient de recevoir un SMS de Marcus de Seignelégier. Il nous demande la chose suivante. Est-ce qu'il est encore possible de mettre de l'engrais d'automne pour le gazon? Il habite donc à 1000 mètres d'altitude.
Moi, je pense que maintenant, l'engrais, c'est peut-être plus la peine d'en mettre. Donc, on a une partie qui va se mettre quand même, peut-être stockée dans les sols, mais on a une partie qui pourrait se trouver lessivée si les pluies commençaient à se faire d'une façon normale ou assez abondante. Donc, moi, ce que je ferais maintenant, c'est que j'attendrais plutôt que la température de l'air et de la terre se réchauffe et plutôt redémarrer tout de suite autour de début avril, mi-avril, voire fin avril, selon le printemps qu'on aura, avec une mise en place d'un engrais complet pour redémarrer nos gazons dès qu'ils reverdissent. Donc là, on aura un effet beaucoup plus important, un effet vraiment rapide, et notre gazon va bien l'assimiler tout de suite.
On a reçu un autre SMS, on a un auditeur ou une auditrice qui nous demande si la cendre de bois peut constituer un engrais pour un jardin potager ou pour des arbres fruitiers.
Alors pour les arbres fruitiers, je ne sais pas ce qu'il peut apporter exactement, mais pour un jardin potager, en tout cas ça c'est bon pour les minéraux qu'il peut apporter dedans, il va apporter certaines choses nourrissantes aussi, et il va alléger le terrain, il va aussi alléger un petit peu la terre, il peut aussi contribuer à ne plus être un terrain favorable pour le développement des limaces. Donc, ce qu'on peut voir, on peut voir plusieurs choses intéressantes qui se développent dans les années à venir. C'est le pratique ça assez régulièrement. En tout cas, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis de nombreuses années, et j'ai dû observer quand même pas mal de petits changements. Donc, c'est très bénéfique, ouais.
Donc, vous le conseillez vivement.
Exactement. Ouais.
On a reçu encore une question de Lucie qui nous demande comment protéger ses pieds d'artichaut, les protéger du froid évidemment. L'année passée, elle les avait paillés, mais par contre, ils sont morts. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à Lucie?
Alors, le paillage reste quand même une bonne formule. Moi, je pense qu'il faut juste faire attention, c'est au niveau du paillage, c'est au redémarrage, au début de la saison, de ne pas le laisser trop longtemps. Dès qu'on voit que les champs commencent de revenir verts, dès qu'on voit que tout commence de bouger un petit peu dans la nature autour de nous, il faudrait tout de suite enlever ce paillage, parce qu'on peut avoir une humidité stagnante qui va entraîner un pourrissement. Donc c'est ça qui peut provoquer peut-être le problème qu'elle a rencontré. Mais un paillage, normalement, il est là uniquement pour protéger, couper du froid. On doit très vite réagir au printemps, dès qu'on voit que la terre se réchauffe, dès qu'on voit que tout rebouge un petit peu. Il ne faut pas le laisser plus longtemps.
Une autre question reçue par SMS, c'est quelqu'un qui nous écrit. Donc cette personne a des bulles de bégonia dans des bacs, elle doit les sortir elle demande si elle doit les sortir ou est-ce qu'elle peut les laisser en terre à l'intérieur où elle met ses géraniums.
Alors le bégonia, c'est pas toujours une plante normalement qui passe d'année en année. Si c'est certains bégonias, on a l'habitude de les changer chaque été. Ça dépend peut-être certaines variétés. Après, on a des bégonias d'intérieur aussi qui sont quand même des plantes qui vont se développer sur plusieurs années. Donc là, de nouveau, c'est un type de plante, des sortes de variétés qu'il faut connaître et qui vont donner la réponse tout simplement. Donc il faudrait qu'elle se renseigne ou bien qu'elle en dise un petit peu plus sur ce qu'elle a pour qu'on puisse lui répondre d'une façon plus précise.
Eh bien, évidemment, donc si vous qui nous écoutez, vous avez envoyé cette question, eh bien peut-être préciser un peu plus dans les détails. Par contre, on arrive déjà à la fin de notre émission. Il est bientôt 8 heures. Merci beaucoup, Fabrice Rondet, d'avoir mis le réveil un samedi de Saint-Martin. Un bel effort quand même. Surtout que vous avez répondu à pas mal de questions des auditeurs. On vous souhaite une belle journée. À très bientôt.
Un bon week-end. Merci.
Les jardinières, bien, elles seront de retour la semaine prochaine pour partager de nouveaux bons moments de jardinage. Si vous n'avez pas eu le temps de nous poser vos questions aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à samedi prochain, vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou avec le formulaire présent sur nos sites. Et si vous le faites durant la semaine, vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.